faut savoir qu'au Qatar, une femme migrante travailleuse sur deux est employée de maison et qu'on compte à peu près 84 000 migrantes. Elles sont principalement originaires donc d'Asie du Sud, du Sud-Est, Inde, Népal, Pakistan notamment, mais on n'a pas de profil type, je dirais, que ce soit en termes d'âge ou de parcours.
Est-ce qu'elles sont venues au Qatar de leur plein gré ?
Oui, mais sur la base d'une tromperie en fait, puisque on leur a évidemment pas parlé des types de conditions de travail qu'elles allaient subir, et il y a également une tromperie sur le salaire, alors même que c'est justement un des motifs qui les pousse à accepter ce type d'emploi, puisque les salaires qui sont promis pour elles, c'est le gage de pouvoir, dès qu'elles reviennent dans leur pays, évidemment faire vivre la famille beaucoup mieux, quoi. Mais ce qui n'est pas le cas à l'arrivée, en fait. Ce sont des femmes qui se retrouvent à travailler 7 jours sur 7, sans aucun jour de congé, qui peuvent travailler plus d'une centaine d'heures par semaine et qui sont abusées et victimes de violences de la part de leurs employeurs. Violences physiques, coups, gifles, des femmes à qui on a tiré les cheveux, à qui on a enfoncé les doigts dans les yeux, qui sont battues. Pour celles qui sont abusées sexuellement, eh bien, on cite un cas dans le rapport, une employée de maison qui a eu les deux jambes cassées et la colonne fracturée lorsqu'elle est tombée par une fenêtre quand elle tentait d'échapper à son employeur qui voulait la violer. Et même à terre, incapable de bouger et blessé, il a continué à l'agresser sexuellement. Parmi toutes les femmes avec lesquelles les chercheurs se sont entretenus, pas une seule n'a vu son agresseur poursuivi ou condamné malgré les dénonciations.
Ça veut dire qu'il y a des tentatives à la fois au niveau juridique et des tentatives de fuite aussi.
Oui, tout à fait. Ben, évidemment, au vu des violences qu'elles subissent, pour certaines, pour un grand nombre, c'est une question de vie ou de mort. Ne pas fuir, c'est prendre le risque de mourir, et s'enfuir va leur faire courir soit le risque d'être arrêté et détenu et ensuite expulsé pour fugue, donc là elles se retrouvent au centre de refoulement de Doha, ou alors pour celles qui ont été malheureusement abusées sexuellement par leurs employeurs et celles qui auront voulu dénoncer vont être en fait accusées de relations illicites. Au Qatar, c'est un crime qui est puni d'un an de prison et d'une mesure d'expulsion. D'où les 70% de détenus de la prison pour femmes de Doha qui étaient des employés de maison.
Mais vous qui êtes juriste, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité, aucun recours possible au niveau juridique pour ces femmes ?
Non, et c'est ce qu'on dénonce notamment parce que leur statut n'est absolument pas prévu par le droit du travail au Qatar. Et donc, elles n'ont strictement aucun recours juridique. Elles ne peuvent pas s'adresser ni au ministère du Travail, ni avoir accès à la justice, puisqu'en fait, elles n'ont strictement aucun droit en tant que travailleurs.
Donc elles sont là illégalement pour le Qatar ?
En fait, non, elles sont là tout à fait légalement, puisque pour rentrer au Qatar, c'est impossible d'y rentrer sans avoir une permission. Mais elles n'ont aucun statut.
Que disent leurs ambassades respectives ?
Leur ambassade ne dit rien de particulier. Nous, on les a bien sûr alertées. Maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a une sorte de complicité, notamment de la part des agences de recrutement dans les pays d'origine, qui font le lien entre donc ces employés et les employeurs au Qatar, et qui sont en fait intermédiaires dans tout ce trafic d'êtres humains.
Mais c'est des agences de recrutement qui n'ont rien à voir avec les autorités indiennes ou népalaises.
Non, non, mais les états d'origine n'ignorent pas ces situations.
Mais est-ce qu'ils tiennent informés ces personnes qui sont volontaires pour le départ ?
Ben en tout cas, c'est ce que justement nous on leur demande aussi, de prendre leurs responsabilités par rapport à au moins de l'information et puis de la prévention, puisque ces États ont quand même signé les conventions relatives à la lutte contre la traite, notamment, et donc ils ont des obligations en la matière, et notamment en termes de prévention.
Vous avez, dans votre rapport, dit que les autorités du Qatar ne parviennent pas à protéger ces travailleuses domestiques. Elles ne parviennent pas ou elles ne veulent pas, et pourquoi ?
On va dire que c'est pas qu'elles ne parviennent pas, c'est qu'en fait, elles n'ont pris aucune disposition pour pouvoir les protéger. Donc c'est pour ça qu'on leur demande justement, elles font des promesses, le gouvernement qatari fait des promesses de protéger effectivement les droits des employés, mais pour l'instant c'est resté lettre morte. Donc pour garantir à ces employés une protection juridique, il faut que le Qatar réforme le code du travail pour inclure ces travailleurs et prévoir des dispositions pour leur protection. Également, il faudrait qu'ils criminalisent les violences dont sont victimes ces femmes. Et d'un autre côté, ils décriminalisent ce qu'on appelle des relations illicites, puisqu'elles sont victimes donc de détentions abusives, elles sont victimes de viols. Donc elles ne doivent pas rentrer dans ces situations. Donc le Qatar doit à la fois réformer le système de parrainage et à la fois réformer son code du travail pour prendre des dispositions qui protégeront et donneront un statut aux employés de maison.
C'est quoi ce système de parrainage? Vous l'avez évoqué à deux reprises.
C'est ce qu'on appelle le sponsorship, en fait. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez vivre et travailler au Qatar que si vous avez un parrain, un employeur. Si ce n'est que cet employeur, il doit vous donner l'autorisation de rentrer, mais il doit aussi vous donner l'autorisation de quitter le pays, ou si vous souhaitez changer d'emploi, vous avez également besoin de son autorisation. Donc en fait, les travailleurs sont piégés, puisque si l'employeur ne donne ni l'autorisation de quitter l'emploi, ni celui de quitter le pays, eh bien, ils sont prisonniers d'employeurs qui pourront très bien d'ailleurs ne plus du tout leur donner de salaire ou ne plus leur permettre d'avoir un logement, etc. C'est un piège.
Les recommandations, c'est très important, mais pourquoi est-ce que les autorités qataries ne les écoutent pas malgré toutes les promesses faites?
Mais c'est aussi une stratégie. Hein. Dans tout le travail qu'on fait, on a un certain nombre d'États effectivement qui vont être très conciliants dans la reconnaissance des faits. Mais pour autant, et si nous on reste pas vigilants pour voir effectivement s'il y a des changements, on pourrait se faire endormir. Donc effectivement, le Qatar, ça ne lui coûte rien que de nous dire qu'effectivement il reconnaît qu'il y a un problème. Ça ne l'engage pas. Voilà. C'est pour ça que nous on va rester vigilants et qu'on va continuer à mettre la pression pour qu'au-delà des promesses et au-delà des constats, il y ait des choses qui changent.